When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
What time is it? Yeah, time is it? Yeah,
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Fever left. 75. Katie. Omaha.
Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 720 du podcast John Actual. On m'était très heureux de vous retrouver pour débriefer les playoffs NFL. À mes côtés, Grégory Richard est là. Bonjour Grégory.
Salut Alain, bonjour à tous.
Je m'excuse auprès des fans de Raphaël Masmejean qui l'attendaient sûrement en nombre. Il a eu un petit désistement de dernière minute parce qu'on l'avait annoncé. Comment ça va Greg?
Ça va bien, j'en fais partie des fans de Raphaël Masmejean, donc tu bah imagines oui, ma grande tristesse.
C'est pour ça, on est tous déçus.
Meurtri de notre cher.
Bon, en tout cas, on lui fait une bise.
bon courage à lui.
On le retrouvera très bientôt, évidemment. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Hein,
mais... Non, il n'y a rien de grave, oui. C'est plus... ça avait l'air professionnel.
Oui, c'est vrai que je dis ça comme ça. Moi, Bon, il a eu un empêchement. Malheureusement, on ne le reverra pas cette année. Non, ça va bien, ne vous inquiétez pas. Grégory, ça va bien aussi. Non, ça va moins bien, pardon, pour les Bills. Nouvelle déception. Ça va mieux pour les Chiefs, un champion immortel. Et des Lions qui ont gagné plus ou moins logiquement. C'est le programme des affiches de la semaine. On va commencer sans plus tarder avec Buffalo Bills 24, Kansas City Chiefs 27. Nouvelle cruelle déception pour les Bills. Un field goal qui part trop à droite. Ils connaissent bien dans l'histoire de cette franchise. Malheureusement, c'était à 1 minute 47 de la fin. C'était l'égalisation ratée à 44 yards par Tyler Bass. Terrible désillusion pour des Bills qu'on semblait avoir le contrôle sur ce match pendant un bon moment. Ils ont gardé le ballon 37 minutes. Ils n'ont pas perdu de ballon, même si c'est parfois passé tout près. Est-ce qu'ils avaient vraiment ce match en main, Greg?
Ils ont longtemps donné l'impression de l'avoir, en effet. Alors c'est sûr que, tu l'as dit, en début de match, ça dégageait pas forcément la grosse confiance. Je crois qu'il y a au moins deux fumbles sur la première ou les deux premières séries des Bills et on n'est pas passé très très loin de la correctionnelle, alors que justement c'est un moment où tout le stade était assez chaud et où c'était vraiment le moment pour lancer les hostilités. Heureusement, ils ont quand même réussi, bon an mal an, à ouvrir le score après déjà une première longue série offensive. Mais en tout cas, oui, ce qui était aussi très important par rapport au plan de jeu qui a été mis en place, qui était manifestement, et ça, c'est pas non plus une sensation, puisque c'est pas les seuls, je pense, à le faire quand ils jouent Kansas City, mais encore faut-il bien le réaliser, c'était surtout le contrôle de l'horloge et le défi, on dira, du jeu à la course auquel Kansas City n'a pas forcément pu répondre d'emblée. Donc, dans cette optique-là et dans la manière, justement, dont l'attaque en première mi-temps a été assez performante, on peut dire quand même qu'ils ont eu le contrôle, je trouve, sur cette partie pendant un moment. Après, le contrôle, voilà, ça dépend jusqu'où tu développes le fait qu'ils ont contrôlé ce match. Ils ont quand même été menés au score malgré tout à un moment donné. Ils n'ont pas toujours dégagé un sentiment de grosse confiance.
C'est pour ça que je posais la question, c'est que je suis pas sûr qu'il l'ait eu tant que ça. Tu as bien dit au début de ta première réponse, ils ont donné l'impression de l'avoir. Et oui. En fait, ils ont gagné du terrain, ils ont gardé le ballon longtemps. Mais au bout d'un moment, tu te demandes si ça faisait quand même pas plus ou moins partie du plan défensif des Chiefs, qui était un peu de plier mais pas rompre. Et en face, tu vois qu'il y a 8 actions de plus de 20 yards pour les Chiefs, aucune action de plus de 20 yards pour les Bills. Je te vois faire la moue, mais tu vois, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, ils étaient quand même. Oui, ils avaient le ballon, mais ils n'étaient pas si confort que
Mais
ça.
en fait, c'est pour ça que je te dis que, alors, c'est pour ça que je tique un peu sur le mot contrôle. Parce que c'est vrai que paradoxalement, oui, ils avaient le contrôle de l'horloge. Maintenant, c'est sûr que, et c'est compliqué de l'avoir quand tu joues Kansas City, avoir le contrôle des événements avec des grosses guillemets, c'est tout sauf évident. Et c'est vrai que, malheureusement, il y a des situations où au début, t'as senti quand même malgré tout que c'était un peu balbutiant. Maintenant, si on part par là, dès la première série offensive, il me semble qu'ils ont une quatrième tentative qui joue dans leur moitié de terrain. Et pourtant, ils n'hésitent pas malgré tout à la tenter, voilà, à prendre ce risque-là. Et c'est pour ça qu'à mon sens, c'est là où j'ai du mal à placer le curseur sur le mot contrôle. C'est-à-dire que voilà, en tout cas, à mon sens, ils ont tout fait pour montrer à Kansas City que ils ne subiraient pas, ils ne feraient rien en tout cas pour subir le score et pour surjouer, pour tenter de revenir, mais ils essaieraient en tout cas d'avoir un maximum la main dans cette rencontre, et au moins en première mi-temps, c'est l'impression qu'ils m'ont donné.
Il y a une différence de rythme incroyable, en tout cas dans ce match. 78 actions offensives pour les Bills qui sont à 4,7 yards par action. 47 actions offensives seulement pour les Chiefs, mais à 7,7 yards par action. Je l'ai dit, il n'y a aucune action de plus de 1 yard pour les Bills. On l'a vu quand même avec les Niners, on le voit avec les Chiefs. Il faut quelques grosses actions en playoff. C'est peut-être ça qui a manqué quand même aux Bills.
Oui et non. Alors après c'est toujours pareil. Oui, c'est vrai que c'est sûr que c'est bien d'avoir des big plays parce que forcément par définition, voilà, c'est ce qui te permet de marquer des points plus vite. Maintenant, est-ce que dans le plan de jeu qui était mis en place par Buffalo, c'était forcément essentiel? Moi, j'ai pas dans l'idée que c'est forcément. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose de prendre à défaut Kansas City dans son dos, on dira, de vraiment être capable de les mettre un petit peu sur le qui-vive. Et qui se disent pas justement en défendant très haut, bah on risque de ne pas être exposé parce que manifestement ils ont du mal à trouver des connexions longue distance. On a vu qu'il y avait de nouveau quand même pas mal de petits soucis avec Stephon Diggs. Ils ont essayé quelques fois une sorte de Trent Sherfield, ça a pas forcément bien marché également. Donc c'est sûr que forcément ça te retire une corde à ton arc. Ça là-dessus, je suis d'accord avec toi. Après sur le plan de jeu en tant que tel. Je ne sais pas si je me dis que un big play de plus de 20 yards, c'est forcément ce qu'il a manqué à cette équipe-là. Enfin, on va peut-être en parler sûrement un peu plus tard, mais à mon sens, l'action la plus symbolique offensivement de Buffalo sur ce match-là, bah, c'est justement un gain petite distance que tu aurais pu aller chercher et que tu n'es pas allé chercher, et pas forcément un gain de plus de 20 yards.
Pour toi, ce que tu veux dire, c'est que ça se joue en fin de match, quand sur troisième tentative est courte, ils vont chercher des tentatives de gros jeu plutôt que
Bah,
des
moi,
choses
par exemple,
simples.
ce que j'ai pas compris, si on y va directement, ils sont sur une 3e et 9, hein, puisqu'on va. Bon. C'est un match, encore une fois, on sait que l'écart est pas monstrueux entre les deux équipes. C'est un match qui, globalement, s'est joué sur des détails. Et la preuve, c'est qu'il y a 3 points d'écart avec un field goal manqué à la fin du match. Tu l'as dit, ce coup de pied trop à droite de Tyler Bass. Moi, j'avoue que, avant de voir le coup de pied de Tyler Bass, j'ai pas compris pourquoi sur une 3e et 9, à 26 yards de l'en-but, tu te dis pas, bon, à minima, on va essayer quand même de mettre le kicker dans les meilleures dispositions. Alors, je ne sais pas si c'est un appel de jeu de Joe Brady ou si c'est Josh Allen qui a trop tergiversé, s'est dit, bah maintenant, c'est foutu, j'ai plus de solution, autant envoyer le ballon dehors. Mais je me suis dit, tu vois, tu aurais peut-être pu, il me semble que James Cook doit proposer une solution plus ou moins immédiate qui aurait pu te permettre de faire avancer un minimum le ballon. Alors, c'est pas retirer la responsabilité sur les kickers, c'est pas toi en plus que je vais dire ça. À mon sens, un coup de pied de 44 yards, ça doit être dans les cordes d'un kicker moderne, on est d'accord. Maintenant, à partir du moment où ton kicker a plus de réussite en termes de pourcentage à moins de 40 yards, autant essayer d'avancer le ballon.
Ah
Si
non,
tu vois
mais
que ça commence à être un peu
évidemment.
plus craignos, essaye d'avancer un peu plus le
Bah,
ballon. Et c'est pour ça que je te dis ça, c'est qu'à mon sens, dans un match où globalement le jeu sur courte distance ou sur du jeu intermédiaire a très bien fonctionné, j'ai quand même trouvé ça dommage que sur un moment aussi crucial, avec seulement 3 points d'écart, tu prennes pas la décision de te dire on assure le coup et on essaie de mettre le kicker vraiment dans les meilleures dispositions. Non pas qu'il ne l'ait pas été, mais ça aurait pu être encore mieux à mon sens.
Ah non, mais ça aurait pu être encore mieux, d'autant que c'est quand même un joueur qui avait déjà raté un coup de pied important. Parce que les commentateurs américains, sur le moment du coup de pied raté, juste avant, disent: Ah, il a raté un coup de pied important, mais tous les supporters de Buffalo lui ont dit qu'ils avaient plein de soutien pour lui et qu'ils l'aimaient beaucoup. Bah, au moment où il rate le second, bah, super. En tout cas, je suis d'accord avec toi. Peut-être que sur ce moment-là, en effet, donc c'est quoi? C'est un problème de gestion pour Josh Allen? J'ai vu certains médias américains, j'ai trouvé ça hyper dur de dire c'est pour Josh Allen, la fin de match est mal gérée.
Alors c'est ça que je ne sais pas. C'est ça que je ne sais pas, mais l'impression que ça m'a donné, c'est qu'il avait quand même des solutions. Il aurait fallu que je revoie ça un peu plus en détail, mais il me semblait quand même qu'il pouvait avoir des fenêtres immédiates assez vite, mais forcément des fenêtres qu'il n'aurait pas garanties la première tentative. Et ça, c'est peut-être un petit peu le bémol, hein, si là aussi je commence à anticiper un petit peu sur la prestation globale, c'est qu'encore une fois, j'ai cette petite chose avec Josh Allen où je me dis, c'est un joueur qui est quand même phénoménal, qui sait faire des choses que peu de quarterbacks savent faire dans la ligue. Et il y a toujours ce moment où il y a cette espèce d'improvisation, ce truc de bah ouais, mais je pense que ça va être une bonne idée. Et finalement, il s'embourbe dans un truc. Et voilà. Et pour moi, encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus pour nos auditeurs. La responsabilité entre Josh Allen et Tyler Bass, si entre guillemets, si on part du principe de pointer un responsable, pour moi, forcément, je dirais plus que la responsabilité, elle est côté Tyler Bass. Mais sur un moment comme ça, où tu te dis que ça va se jouer sur des micro-détails, je me dis que je peux pas m'empêcher de me dire que Josh Allen a peut-être trop poussé l'improvisation, qu'il a voulu forcer le jeu long, justement, le fameux jeu long qu'il n'a jamais réussi à trouver dans ce match, et que malheureusement, bah, ça a un peu pété au visage des Bills, par la suite.
Ceci étant dit, c'est un match où il y a beaucoup de tensions sur la fin et d'erreurs au fur et à mesure. C'est un très beau match, dans l'ensemble, évidemment, c'est tout ce qu'on attend d'un match de playoff. Mais ça commence de manière très très propre et au fur et à mesure, on a quand même senti la tension, notamment dans le quatrième quart-temps, avec beaucoup d'erreurs. Il y a en fait, je vous refais le quatrième quart-temps, mais donc il y a cette fin de punt ratée par les Bills, dont on pense qu'elle peut être quand même vraiment fatale parce qu'à ce moment-là, les Chiefs sont devant de 3 points et récupèrent le ballon en bonne position. Mais derrière, il y a un fumble de Mecole Hardman juste devant la end zone, un punt de chaque équipe dans la foulée et le field goal manqué par Buffalo. Donc il y a vraiment eu beaucoup de tensions et beaucoup de ratés. Il y a même un fumble de Josh Allen d'ailleurs hein, dans la série qui les emmène au field goal raté. Il y a un fumble de Josh Allen qui est recouvert miraculeusement par Dalton Kincaid qui est un peu héroïque, qui réussit une quatrième tentative derrière Étroit. Donc il y avait vraiment de la tension. C'est un peu ce qu'on attend d'un match de playoff. Et donc, comme tu dis, oui, il y a peut-être une ou deux mauvaises décisions, mais il fait pas non plus des trucs qui ont assassiné son équipe. Donc, c'est dur de lui mettre sur le dos, je
Ah non, non,
trouve.
non, mais c'est pour ça que
Voilà.
j'insiste bien là-dessus. C'est vraiment ce décalage, malheureusement. Et alors, j'ai l'impression que c'est plus je le déplore un peu de manière un peu dépitée parce que, encore une fois, je le dis, sur le match en lui-même, c'est comme plein d'autres matchs de Buffalo et c'est ce qui fait que Buffalo, aujourd'hui, il reste une des équipes les plus dominantes de l'AFC. C'est que, globalement, c'est un quarterback qui arrive à mettre sa patte d'énormément de manières. Je ne sais pas s'il a été inspiré en plus par l'action controversée qui a donné la victoire à Buffalo à Kansas City pendant la saison, mais c'est vrai qu'il avait aussi ses
Oui, la
inspirations à
latérale,
passer
ouais.
la ligne de scrimmage et à toujours avoir, enfin, j'ai souvenir d'au moins deux actions assez significatives où il avait toujours ce réflexe de faire la petite passe latérale arrière, justement pour permettre à Buffalo d'aller chercher la première tentative derrière. Donc, d'un point de vue intelligence de jeu, voilà, on va dire instinct, flair, tout ça. C'est pas quelque chose qu'on peut reprocher, mais justement, ça met en contradiction avec bah, le moment où tu te dis bah, quand il faut mettre le couvercle, bah, il y a toujours un truc où tu te dis mince, ah, il va avoir tendance à surjouer. C'est un peu, et c'est aussi une comparaison qu'on prenait beaucoup quand il est sorti d'université, il a ce côté un peu Brett Favre, qui était un quarterback hors du commun, mais qui avait aussi cette manie d'avoir des petites facéties par moment. Et là, à mon sens, encore une fois, même si c'est pas, même si je le répète, c'est. Le coup de pied, le kicker, le field goal, pardon, manqué de Tyler Bass doit être principalement imputable au kicker en lui-même, mais en l'ayant vécu en direct et sur le moment, je me suis dit, c'est quand même dommage qu'ils aient pas un minimum avancé, qu'ils aient voulu peut-être surjouer à un moment où, comme tu l'as dit, ça devenait plus cadenassé, plus tendu et où c'était peut-être pas forcément le moment opportun pour le faire.
Est-ce qu'on regarde pas un peu du mauvais côté quand même? On n'a pas parlé de la défense. Mine de rien, ils se sont fait un peu marcher dessus. 146 yards au sol pour les Chiefs, 6,1 yards par course. Ils se sont quand même fait un peu marcher dessus. C'est peut-être plutôt du côté de la défense qu'il faut regarder pour voir aussi pourquoi ils perdent ce match.
Ouais, alors surtout, à mon sens, c'est ça, c'est que Buffalo, en fait, et c'est pour ça que je suis à moitié d'accord sur toi, avec toi, pardon, sur notamment le plan de jeu de Kansas City en défense. Je pense que Kansas City s'est vraiment fait marcher dessus au sol en première mi-temps, mais s'est adapté. Alors que Buffalo, à l'inverse, a semblé peut-être baisser de pied. Alors, on sait que C'est à moitié vrai mon argument, parce que du côté des Chiefs, on a perdu pas mal de défenseurs au cours de la rencontre également. Mais c'est vrai que du côté de Buffalo, on collectionne aussi les blessures depuis pas mal de semaines. Peut-être qu'on a commencé à accuser le coup un petit peu là-dessus, et que bah, sous les coups de boutoir, notamment d'Azaïa Pacheco, ça commence à être beaucoup plus difficile à défendre. Mais c'est vrai que, par exemple, le premier rideau défensif du côté de Buffalo va être un vrai sujet, à mon sens. Il y a des joueurs qui n'ont pas forcément performé au niveau où on les attendait. Je pense à Devon Miller, des Ed Oliver, des joueurs qu'on a déjà vus beaucoup plus à leur avantage, et qui, en effet, ont semblé un petit peu en difficulté, notamment en deuxième mi-temps. Et c'est sûr que ça a permis à Kansas City de reprendre du poil de la bête, même sans un Patrick Mahomes, on dira stratosphérique d'un point de vue statistique. Alors, il l'est d'un point de vue pourcentage, mais c'est vrai qu'on a déjà eu un Patrick Mahomes encore meilleur dans son utilisation. Donc, je trouve qu'au niveau de la passe, à de très rares exceptions, ils ont pas trop, ils ont plus ou moins limité la casse. Mais c'est vrai que pour te
Ah.
rejoindre, au retour des vestiaires, au niveau du jeu au sol, ils se sont fait pas mal ouvrir.
Enfin, au retour des vestiaires, je veux dire, même avant, les Chiefs marquent sur leurs 5 premières possessions. Les 5 premières possessions des Chiefs, c'est field goal, touchdown, touchdown, touchdown. Donc, il y a quand même quelque chose qui s'est joué là-dessus aussi. Ça passe un peu inaperçu parce que c'est serré à ce moment-là. Les Bills rentrent coup pour coup, mais si tu fais quelques stops, c'est quand même un peu mieux. Et si tu prends pas des points à chaque fois. On revient donc un peu là-dessus. Encore une fois, Patrick Mahomes, tu le disais, a pas été statistiquement transcendant. 17 sur 23, 215 yards, 2 touchdowns, aucune interception. Travis Kelce a 2 touchdowns, il sort un peu de sa boîte, il n'avait pas marqué depuis un moment. Mine de rien, alors 16 touchdowns ensemble en playoff hein, pour Mahomes et Kelce, c'est un record pour un duo. Il passe devant Brady et Gronk, donc c'est quand même quelque chose. Mahomes, tu dis, les stats sont pas forcément flamboyantes, mais je trouve qu'il est quand même. Il passe dans une phase maintenant un peu force tranquille, quoi. On sent le
Ah,
joueur
clairement.
qui a tout vu, ou presque, alors qu'il n'est pas très vieux, mais ça dégage quand même une force, sereine qui est assez impressionnante sur ce match.
Bien sûr, et c'est là aussi mon point, c'est-à-dire que je m'arrête sur le point de vue d'un point de vue globalement statistique, et on va dire sur certaines séquences. Mais c'est vrai que on continue de voir que, par exemple, contre le Blitz, ce qu'a tenté quelquefois Buffalo, Patrick Mahomes reste quand même assez injouable, quoi, et que
Zéro sac.
le moindre écart de la défense des Bills a été payé au prix fort malgré tout. Donc voilà, c'est pas parce qu'on tombe sur un Patrick Mahomes qui est peut-être à l'image de sa saison d'ailleurs, hein, qui est peut-être pas forcément, c'est aussi là-dessus que j'insiste. C'est sûr qu'il n'est pas dans peut-être la meilleure forme depuis qu'il arrive en NFL. Peut-être qu'il n'est pas sur une saison purement MVP. Mais quand on arrive en playoff, bah, faut encore réussir à le stopper. Là, en plus, sur un terrain hostile où on aurait pu se dire, bah, tiens, justement, Buffalo, qui avait peut-être un petit peu de ressenti par rapport au précédent match de playoff qu'ils avaient perdu sur le terrain des Chiefs, où là, pour le coup, ils avaient l'avantage du terrain. Bah, j'ai pas eu la sensation que ça s'est tant ressenti que ça, et que, bah, globalement, Patrick Mahomes, quand il fallait faire les jeux décisifs et trouver ses cibles sur des tentatives importantes, il arrivait à le faire. Ça fera peut-être un peu sourire certains joueurs des Chiefs, mais en plus, sur ce match-là, bah, il arrive à trouver Kelce, ce qui est très bien, parce que manifestement, on n'a pas mis en place un plan de jeu défensif suffisamment efficace du côté de Sean McDermott pour contrer le tight end. Mais le gros facteur X du côté de Kansas City, c'est aussi un Marquez Valdes-Scantling, quoi, qui est quand même un peu sujet au drop tout au long de la saison, et qui là, sur ce match-là, sur les quelques séquences où Patrick Mahomes a tenté de l'alerter sur du jeu profond, bah, il a réussi à faire des catchs, et en plus des catchs qui étaient contestés, quoi. Donc c'est sûr que ça a aussi permis à la machine offensive des Chiefs de ne pas de rester bien huilée. Et ça leur a permis de rester dans le coup jusqu'au bout. Et on se doutait, quand ils ont pris l'avantage systématiquement, quand ils commençaient à accumuler les points, forcément, on s'est dit à un moment donné, ça va quand même devenir compliqué pour Buffalo, à minima, de leur mettre 30 points face à une défense comme ça, qui est montée en régime, qui a réussi à s'ajuster, etc. Ça a commencé quand même à devenir compliqué de ne pas stopper cette escouade offensive.
Donc zéro sac on disait hein, pour Patrick Mahomes, c'est quand même aussi la différence avec les quelques défaites en playoff qu'ils avaient eues. Et tu le disais, ouais, Marquez Valdes-Scantling qui sort de sa boîte, on verra, c'est presque plus pour la preview de demain, hein, mais est-ce qu'ils pourront tenir sur quelques facteurs X comme ça? Ce sera l'autre question. En tout cas, pour l'instant, le jeu au sol a bien marché. La défense des Chiefs, pour revenir sur elle, parce qu'on a beaucoup parlé de l'attaque des Bills. Arrivait dans ce match quand même avec l'étiquette de numéro 2 sur les points encaissés, donc une très solide défense. Est-ce que elle t'a convaincu? Parce que finalement, ils en prennent 24. On l'a dit, les Bills, on les a quand même gardés sur le terrain un bon moment. Plus de 37 minutes, si je ne dis 37 minutes
Oui,
03.
c'est ça.
Donc, est-ce que finalement, ils s'en sortent bien ou est-ce qu'ils ont bien joué le coup justement pour plier et pas trop rompre? Ils prennent que 7 points en deuxième mi-temps, donc c'est vrai qu'il y a eu des
Oui,
ajustements.
bah oui, mais c'est ça, et c'est ça. Et encore une fois, oui, c'est vrai que je disais aussi en première mi-temps, ils se font martyriser, je trouve, au sol. Mais c'est vrai qu'en effet, il y a aussi ce ball control qui est mis en place par Buffalo et qui a sans doute qui les a usés quand même un petit peu. Et j'insiste encore là-dessus, mais ce paramètre des blessures qui est non négligeable. Quand il te manque un habituel titulaire avec Derrick Nnedi sur la ligne défensive, quand tu perds coup sur coup Willie Gay sur le poste de linebacker et Mike Edwards sur le poste de safety, bah forcément tu t'exposes aussi à avoir un run stop un peu friable. Donc quand on, au niveau du coaching staff, on a fini par s'ajuster. Quand les joueurs qui sont rentrés ont mis un peu plus de cœur à l'ouvrage, je pense à un Jamari Conner qui est pas forcément habitué à jouer autant de snaps sur certaines rencontres cette saison. Bah, globalement, ça a pris corps et ça a fini par stopper cette attaque de Buffalo. En tout cas, à minima, à les freiner parce que voilà, une fois que le ball control est plus forcément efficace, bah forcément du côté de Buffalo, ça devient un match difficile à maîtriser. Mais voilà, on retrouve des forces habituelles, hein. Un Karl Aftis, par exemple, à mon sens, est quand même monté en puissance au fur et à mesure du match. Donc oui, ça confirme très très clairement le bien qu'on pense de cette équipe, qui reste une formation extrêmement complète, même si en effet tous les voyants n'étaient pas forcément au vert cette année.
Ils sont toujours champions en titre, ils sont toujours en course pour le premier doublé depuis 20 ans, c'est quand même assez dingue, ils dégagent quand même. C'est pas la, je sais pas comment dire, tu sais, ils disent flavor of the month, tu sais, aux États-Unis, ils sont pas à la mode cette année, il y a des équipes qui sont un peu plus glamour, etc. Mais maintenant, ils dégagent ce truc un peu à la Patriots à une époque de, bah ouais, mais en fait, ils vont quand même être là et il va quand même falloir les sortir et ça va pas être facile, même s'ils ont pas les joueurs les plus à la mode ou fun du
C'est
moment.
ça. C'est un peu les Patriots 2018, ouais, en effet.
Ouais, il y a des trucs un peu comme ça. En tout cas, ça va être intéressant de les voir au prochain tour contre les Ravens. Les Bills, en un mot, c'est quoi la suite? Est-ce qu'on change quelque chose? Est-ce que on n'est pas revenu en long, en large et en travers sur la fin de punt, si on veut parler coaching, mais qui a consterné un petit peu toute la rédaction. On s'est posé la question toute l'après-midi. Qui a compris? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a cru que ça allait marcher? La réponse était à peu près non à tout.
Non.
Est-ce que ça remet Sean McDermott en cause?
Alors, à mon sens, ça remet pas forcément Sean McDermott en cause. C'est sûr qu'encore une fois, bah, je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand tu tentes une quatrième tentative dans ta moitié de terrain en première mi-temps et que ça fonctionne, on crie au génie. Quand tu tentes une quatrième tentative en deuxième mi-temps et que ça fait un bide, bah forcément on dit ouais, t'es
Après, il y a
bidon.
une manière de la tenter, parce que là, la fin de punt, elle est quand même...
C'est sûr que là, c'était confus. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais c'est sûr qu'ils ont beaucoup de chance malgré tout de pouvoir espérer au moins arracher la prolongation, parce qu'il n'y aurait pas eu ce fumble de Mecole Hardman qui termine
Ah bah
derrière
c'est
l'en-but
ça.
de Buffalo. En
C'était
effet, ça
fatal,
aurait pu
hein.
être beaucoup plus compliqué. On ne parlerait même pas du coup de pied. Hein.
Non.
Donc c'est sûr que là-dessus, oui, ça peut être préjudiciable. Après.
Donc, tu remets pas en cause de Sean McDermott. Qu'est-ce que tu changes d'autre?
Alors déjà, moi, la question importante, c'est que je commence à me dire, est-ce qu'on va vraiment avoir un coordinateur défensif l'année prochaine du côté de Buffalo? Non pas que McDermott ait pas fait un bon boulot, mais c'est toujours la même problématique. Alors moi, je suis un peu rigoriste là-dessus, mais je me dis, est-ce que justement, à vouloir avoir plusieurs casquettes, est-ce que bah il n'y a pas des moments où il perd pas un peu le fil du match et où il part un peu trop dans certaines idées un peu farfelues? Après, qu'est-ce qu'on change globalement? Moi, je te dis, le problème. Alors, en fait, ce qui me perturbe un peu avec cette équipe de Buffalo, c'est qu'on a l'impression qu'on tire un peu les mêmes conclusions chaque année. Là, défensivement, ils ont beaucoup de blessés, et pourtant la défense tourne globalement sur l'ensemble de la campagne. Mais tu te dis toujours, bah, globalement sur les lignes. Là, pour le coup, c'est offensive et défensive à mon sens. Et sur les postes de receveur, il y a encore beaucoup trop de drops. Va falloir s'interroger un petit peu sur l'avenir de Stephon Diggs. Il y a toujours les mêmes zones d'ombre à mon sens du côté de cette formation, et c'est assez triste parce que c'est une équipe complète, mais c'est une équipe, t'as l'impression, à qui manque toujours ce petit grain supplémentaire pour leur permettre de franchir cette étape que toute une ville attend.
Stephon Diggs qui n'a pas dépassé les 100 yards sur un match depuis le 10 octobre. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même à surveiller de ce côté-là. Bon, renforcer les lignes, rajouter des receveurs, ça fait pas mal de choses. Les Chiefs, on en reparlera dans la preview. Les Bills, juste en un mot, est-ce que tu penses qu'ils vont y arriver un jour?
Honnêtement, oui, je pense qu'il y a quand même du potentiel pour le faire. Après, c'est toujours pareil, et c'est aussi ce qui fait écho, par exemple, à la situation de Kansas City, même si c'est un peu triste de résumer comme ça. Enfin, c'est maladroit, à mon sens. Ils ont malgré tout le combo quarterback coach. Donc si après tu arrives à encadrer ça, et globalement je trouve que Brandon Bean fait du bon boulot depuis qu'il est arrivé chez les Bills, je pense que ça reste assez cohérent. Il y a des bons choix, enfin il y a des bons paris qui sont tentés pendant la free agency. C'est pas une équipe qui draft mal en règle générale. Maintenant oui, je te dis, il manque peut-être un ou deux playmakers peut-être dans cette formation pour vraiment leur faire franchir ce palier, mais ça me paraît pas désespéré.
Ça me fait peur. Je trouvais que c'était un peu l'année idéale, les Bengals blessés, les Chiefs prenables. Il y avait une. Pour moi, c'était l'année là où ça pouvait passer. J'étais persuadé que ça passerait. Bon, ce sera pas le cas. Detroit Lions 31, Tampa Bay Buccaneers 23. Les Lions, eux, continuent. Ils ont été accrochés pendant trois quarts temps. Ils ont accéléré ensuite avec deux touchdowns au début du quatrième. Les Bucs sont revenus. Ils ont même réussi un stop défensif pour avoir une balle pour l'égalisation. Mais là, Baker Mayfield a été intercepté à 1 minute 35, pardon, de la fin. Et les Lions ont assuré la victoire. On a l'impression que les Lions se sont bien ajustés après la pause et qu'au final la victoire est plutôt logique, Greg.
Oui, c'est un match où, me semble-t-il, ils n'ont jamais été menés au score. Ils se sont toujours fait rejoindre, mais ils doivent mener
C'est
3-0,
vrai.
10-3,
Ouais, c'est
17-10
vrai. Ils n'ont jamais été derrière, en
de
effet.
mémoire avant qu'ils se fassent rattraper. Donc c'est vrai qu'en soi, on peut pas dire que le fait qu'ils s'imposent au final soit illogique. Maintenant, c'est sûr qu'ils ont laissé beaucoup d'espoir à Tampa Bay pendant très 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 longtemps, parce qu'il y a 17 partout à la fin du troisième
Oui,
quart.
c'est ça.
De mémoire, donc c'est vrai qu'on s'est souvent posé la question, je pense, devant la télé, de se dire, il faut quand même pas grand-chose face à cette équipe des Bucks pour qu'éventuellement ils perdent un petit peu le fil de la rencontre. Et voilà. Heureusement pour eux, il y a quand même pas mal de playmakers. Et malgré tout, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et je sais pas si t'allais y venir, ça reste une équipe globalement disciplinée malgré tout.
J'allais dire, surtout, alors la discipline, ça revient un peu au coach, mais j'allais surtout te dire qu'au-delà des playmakers, il y a du bon coaching. Avant la mi-temps, la plus grosse course de Détroit, c'est une course de 7 yards de Jared Goff. Et derrière, t'as Jahmyr Gibbs qui a 9 courses, 74 yards et un touchdown au total. Il met un touchdown très important sur une longue course. Jared Goff s'est réveillé dans le quatrième quart-temps aussi. Il finit à 30 sur 43, 287 yards, deux touchdowns et aucune interception, pardon. Ils ont beaucoup mieux géré les blitz d'en face après la pause. Donc j'ai l'impression qu'il faut quand même donner beaucoup de crédit à Ben Johnson, le coordinateur offensif.
Oui, très très clairement, il s'est bien ajusté. Après, à mon sens, il y a aussi justement un petit switch au niveau du jeu au sol. J'ai l'impression qu'on a beaucoup essayé justement de fatiguer un peu la défense des Bucks en utilisant David Montgomery dans un premier temps. Ses stats sont pas formidables. Après, voilà, c'est toujours du travail un petit peu de sape avec David Montgomery. C'est-à-dire que même si c'est pas flamboyant, bah en effet, faut se le coltiner pour parler franchement à chaque impact. Et après, bah, en deuxième lame, quand t'as le feu follet qui sort du bois, à savoir Jahmyr Gibbs, ça devient compliqué de réussir à le surveiller durablement, que ce soit à la course ou à la réception. Et c'est vrai qu'un des tournants de ce match-là, notamment, c'est cette énorme course qu'il arrive à faire pour le touchdown de son équipe, qui met un petit coup de massue sur la tête de Tampa Bay. Mais c'est vrai que c'est aussi là, à mon sens, enfin, t'en as énuméré quelques-unes, mais c'est vrai que le jeu au sol a longtemps été bien contenu par la défense de Tampa Bay, et à partir du moment où il y a eu un peu plus de vivacité, je trouve, de la part de Jahmyr Gibbs, ça a été un petit peu plus compliqué. Faut voir aussi dans quelle mesure Détroit a dû s'adapter, parce que c'est vrai que ils perdent Jonah Jackson, leur garde sur blessure. Alors il y a Frank Reino qui sort pas longtemps non plus, mais en tout cas, voilà, il y a eu quelques ajustements nécessaires pendant un court instant. Et c'est vrai que ça aussi, c'était pas forcément l'idéal pour permettre à cette O-line de Détroit de vraiment prendre le dessus sur cette défense des Bucks qui a été très très bonne tout au long de la saison, faut pas l'oublier. Donc voilà. Donc pour répondre à ta question, oui, en effet, il y a eu un très bon travail mis en place par Ben Johnson. Et c'est sûr que voilà, Jahmyr Gibbs a été le facteur X que cette équipe espérait en le sélectionnant en deuxième choix de la draft l'année dernière.
Jared Goff, lui, il n'arrête plus de se venger. Il réussit ses 11 premières passes du quatrième quart-temps pour 131 yards et un touchdown, alors qu'il avait commencé très difficilement. Il devient clutch et je ne sais même pas à quelle question te poser, mais juste admirer, quoi. C'est beau, un mec qui était en difficulté, qu'on a mis au placard et puis qui là ressort, qui se venge. Il est pas, encore une fois, hyper efficace. Il est même pas joueur du match de mémoire sur le résumé du site, par exemple. C'était Raphaël même qui a pas titré sur Jared Goff, mais. Je trouve qu'il mérite quand même qu'on s'attarde sur lui d'une manière ou d'une autre parce qu'il est devenu très très propre et il réussit quelques actions peut-être qu'il réussissait pas à l'époque des Rams.
En fait, le problème, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'on en attend concrètement? Alors je te rejoins, hein, c'est sûr que oui, il y a des moments où en effet il est plus clutch, mais après je pense que ça fait aussi partie de la maturité d'un quarterback. Je pense que du côté des Rams, on en a peut-être attendu plus de par l'explosivité que pouvait avoir l'attaque globale. Ça ne veut pas dire que l'attaque de Détroit n'est pas explosive, mais je pense qu'elle joue sur d'autres registres. Je pense que c'est une équipe qui est extrêmement létale dans le jeu intermédiaire, par exemple, et Jared Goff est assez excellent dans ce domaine-là. Il a énormément de menaces différentes qu'il n'a pas hésité à utiliser sur cette rencontre. Donc voilà, en fait, ce qui est assez fort avec Jared Goff, c'est qu'en effet, globalement, en termes de prise de décision, c'est propre. J'ai pas, j'ai, alors, j'ai, il y a eu des matchs forcément cette saison où Détroit s'est un peu écroulé, le match à Baltimore par exemple. Où, voilà, il y a eu des rencontres où forcément ça n'a pas toujours tourné dans le bon sens. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que globalement, Jared Goff n'est pas le quarterback qui panique dans cette équipe de Détroit. Il y a quand même, il dégage quand même un autre langage corporel, si je peux parler ainsi. Et du coup, j'ai perdu mon point, mais c'est pas très très grave. Ça va me revenir.
Bon, en tout cas, il utilise bien ses armes. Amon-Ra St. Brown est à 77 yards sur 8 réceptions. Il a un touchdown. Sam Laporta à 9 réceptions. Jahmyr Gibbs a capté 4 ballons aussi dans les airs. Jamison Williams en a 2. Josh Reynolds en a 2. David Montgomery en a 3. C'est quand même aussi ça, l'attaque de Détroit. Tu parlais du style. Ils ont quand même beaucoup de cibles, beaucoup d'armes, il y a du volume, il y a beaucoup de choses. C'est aussi pour ça qu'on avait l'impression que c'était inéluctable, j'ai l'impression, en un sens, par rapport à Tampa, où ça avait l'air de vivre plus sur des gros coups, sur un Mike Evans qui a 147 yards et qui réussit des petits exploits pour les maintenir dedans.
Oui, c'est ça. Il me semble quand même avoir vu. Voilà, il y avait beaucoup de troisième ou quatrième tentative du côté de Tampa qui était converti, on va dire, au forceps avec des jeux qui sortaient un peu de nulle part par moment. C'est vrai que du côté de Détroit, j'ai pas ce ressenti. Il y a eu des ballons qui ont été rendus rapidement, mais tu sentais que quand ça avançait, c'est ce que je voulais dire aussi avec Jared Goff, c'est qu'il a aussi cette capacité vraiment à imprimer un certain rythme. Voilà, qui n'est pas
Il y
un
a eu.
rythme transcendant, mais on parlait de Josh Allen tout à l'heure par rapport à la gestion du ball control. On sent que quand Jared Goff arrive à prendre confiance, il arrive à emmener tout le monde dans son sillage et à vraiment imprimer une patte, un certain rythme pour faire en sorte que les chaînes avancent relativement rapidement, quoi.
Et puis, il y a les quelques grosses actions, parce que tu parlais des troisièmes tentatives. Il y a une conversion de 16 yards d'Amon-Ra St. Brown sur une troisième et 15 qui est hyper importante,
Oui.
qui est en sang-froid pour tout le monde.
Tu vas beaucoup chercher le receveur, j'allais dire, ouais.
Ouais, il y a la course de 31 yards de Jahmyr Gibbs. Enfin voilà, il s'est passé aussi des choses où ils ont planté quelques banderilles. Je reviens encore à ça, mais les Chiefs ont planté quelques banderilles, les Niners ont planté quelques banderilles, et c'est vrai que ça fait aussi la différence. Pour les Buccaneers en face, c'est un match qui est pas du tout indigent, hein. Ils sont à 3 sur 3 dans la zone rouge, les Buccaneers. Ils sont à plus de 400 yards. Et t'as Baker Mayfield qui s'est battu comme un fou, 26 sur 41, 349 yards, 3 touchdowns, mais 2 interceptions. Et j'ai l'impression que c'est un peu le prix aussi à payer avec Baker Mayfield. Tu parlais de quarterback à la Brett Favre tout à l'heure. Baker Mayfield, il a un peu de ça aussi. C'est-à-dire que la différence sur ce match, c'est aussi les ballons perdus.
Ah, forcément, j'aurais du mal à te dire que là, les turnovers n'ont pas joué un rôle déterminant sur le résultat du match. Après, c'est un peu sévère, je trouve, à mon sens, parce que je suis pas sûr que la première interception lui incombe. Elle me paraît. Quand on s'appelle Mike Evans, ça me paraît un ballon relativement captable. Mais
Ouais,
voilà,
après.
après.
Faire un énorme match encore.
Ah non, mais il fait un énorme match. Ça n'empêche pas que
Oui.
c'est un drop assez moche dont on n'a pas l'habitude de sa part. Et en effet, voilà, en plein centre, près des 50 de mémoire, enfin, ça pardonne pas. C'est sûr qu'il va y avoir pas mal de joueurs dans le secteur. Bon, la deuxième, c'est un jeu un peu plus risqué où Derek Barth a une bonne inspiration. Voilà. Encore une fois, je ne vais pas te dire que oui, ça pèse pas lourd à l'arrivée dans la balance pour Tampa Bay, ces deux pertes de balles. Mais c'est vrai que sur la prestation globale et vu la saison de Baker Mayfield, oui, c'est sûr que pour répondre à ta question initiale, oui, il faut se dire que ça a aussi fait partie de son identité, de son empreinte de jeu, d'avoir un jeu qui peut être un peu plus risqué, de jouer un peu plus profond. Voilà, de se laisser aller à certaines passes, pardon, un petit peu plus osées pour aller chercher Cade Otton, Mike Evans en bord de ligne, etc. Ben, c'est toujours pareil. Quand ça réussit, ben, en effet, ça permet aux Bucks de rester dans le match. Quand ça réussit pas, ben, tu te dis, ben, voilà, on vit, on meurt avec cette idée-là. Mais à mon sens, oui, Baker Mayfield est aussi celui qui leur a permis de rester aussi longtemps dans cette rencontre.
Bien sûr, hein, ça va
Non,
avec,
non,
hein,
je dis pas que c'était un plaidoyer contre lui, hein, mais
mais je veux dire,
voilà.
c'est la Baker Mayfield d'expérience aussi, quoi. Tu sais que
Oui.
des fois, il pourrait y avoir ce genre de choses-là qui arrivent, mais tu l'as dit et on le dit depuis le début, c'est une équipe qui a été hyper accrocheuse. Ils gagnent plus de 400 yards. Personne n'aurait attendu qu'ils soient au Divisional Round contre les Lions à prendre 400 yards, à être efficace, à se retrouver à une possession d'égalisée. Mais encore une fois, je pense que sur ce match-là, ça pêche sur les turnovers, si on revient au scénario. Sur cette
Oui, c'est ça,
interception à
c'est
la
ça.
fin
Après,
et puis sur.
oui, après, je trouve que alors, la ligne offensive, c'est toujours un peu compliqué parce que là aussi, il y a un côté positif et négatif. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal, par exemple, à s'adapter aux phases de blitz de la défense de Détroit, notamment en première mi-temps, et ça a pas mal contraint Tampa à punter, surtout notamment sur des séries où ça avait l'air quand même de bien avancer, on avait l'air de trouver un certain rythme. Mais c'est vrai que voilà, globalement, si Baker Mayfield a aussi eu le temps de trouver notamment Mike Evans sur du jeu profond, c'est aussi parce que la O-line a fait le boulot. Si Rachaad White a réussi à être assez percutant, alors ses stats sont pas extraordinaires, mais il est pas loin quand même des 100 yards en cumulé à la course et à la réception. Voilà, s'il fait encore une bonne prestation, c'est parce que la O-line a été de qualité. Mais c'est vrai que si tu restes sur du chiffre pur et simple, oui, bah, malheureusement, tu peux pas prétendre à gagner en rencontre avec autant de turnovers. Juste un petit point, je sais pas si t'es là en parler.
Vas-y.
Petite interrogation, parce qu'on parle des choix curieux. Pourquoi Todd Boyce tente la conversion à 2 points sur le troisième touchdown de Tampa Bay? Ça, j'avoue, je sais pas.
Alors,
J'ai un peu gratté la tête.
moi je ne reparle pas de ça parce que il y a la team stats avancée de la rédaction qui m'a expliqué dans les grandes largeurs que le pourcentage fait que c'est plus intelligent de tenter 2 fois la conversion à 2 points que voilà. Donc moi si vous voulez, voilà.
Et il peut pas le faire après si potentiellement
Non, parce qu'il vaut
il.
mieux la tenter 2 fois parce que ça augmente de. Ouais, c'est les stats avancées. Moi, je suis désolé. Voilà, j'ai pas de
Ouais, moi ça me
sensibilité
dépasse
pour
aussi,
ça.
hein. Enfin.
Non, mais en gros, si tu tentes 2 fois la conversion à 2 points, tu as 20% de chance de perdre, 25% de faire match nul et 55% de gagner. Si tu tentes que la deuxième fois, tu as 45% de chance de perdre et 55% de chance de gagner. Donc, ton pourcentage de chance de gagner est exactement le même, mais tu as plus de chances de perdre si tu la tentes qu'une seule fois. Mais bon, comme tu l'as raté la première fois, bah, ça revient au même, quoi.
Moi, je veux bien l'entendre, mais après, c'est vrai que moi, je me dis, t'es mené 2 touchdowns, tu réussis enfin à en mettre un pour recoller dans un match où ça n'a pas forcément bien pour Tampa, et tu recasses un mini momentum en
Je
manquant la
suis. Et
conversion à
bah,
2 points.
c'est exactement ce que je pensais. Je me disais, ça sert à quoi mentalement de laisser tes mecs à 8 points plutôt que 7?
C'est ça.
Mais les
Et
stats avancées.
ça te met une pression de dingue
Bah
derrière
ouais.
sur
Sur la
potentiellement la
deuxième.
conversion pour
Ouais,
égaliser.
sur la
Enfin,
deuxième. C'est pour ça que je
je suis
comprends
pas coach
absolument
NFL.
pas. Mais les stats avancées, pour moi, c'est un peu le problème du truc. C'est-à-dire que les stats avancées, elles jouent contre quelle défense, à quel moment du match, etc. Parce que, enfin, tu vois, moi, je préfère la tenter sur la deuxième fois si tu as un élan positif et que tu veux vraiment gagner. Ou là, pour moi, en effet, c'est une décision qui laisse ton équipe dans un trou de 8 points toujours. Donc le fossé, il a forcément l'air plus large. Alors, je ne doute pas que Todd Bowles a remonté tout son banc en leur disant, les gars, ne vous inquiétez pas, les stats avancées disent qu'on est toujours dedans et que c'est pareil. Mais moi, ça me parle pas. Ça, c'est. Je l'ai dit. J'ai eu la discussion avec Marco notamment dans la rédaction. Je respecte. Je sais que ça parle à plein de gens, mais moi, pas du tout. Et c'est le genre de truc que là, bon, on peut m'expliquer ça par toutes les stats qu'on veut. Mais je suis content de savoir que je suis pas le
Non, mais
seul.
ça là-dessus, on est dans la même team. Après, voilà, je parle de ça parce que c'est pareil, hein, c'est un peu comme l'action de Josh Allen. Hein, je m'arrête un peu là-dessus parce que ça m'a fait un pet au casque quand je l'ai vu en direct. Maintenant, voilà, comme pour Josh Allen et Tyler Bass, voilà, la conversion à 2 points, c'est presque anecdotique quand derrière Baker Mayfield fait son interception, on est d'accord.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ils font quoi maintenant les Buccaneers? On va ouvrir sur la saison suivante. On garde Baker Mayfield et on continue. Déjà, un, est-ce qu'on garde Baker Mayfield, oui ou non, puisque il est libre?
Ah oui.
Ok.
Après, c'est toujours pareil, ça dépend de la situation de Dave Canales. Est-ce qu'il décide de rester du côté de Tampa, sachant qu'il est très courtisé
Le coordinateur
avec
offensif.
des coordinateurs offensifs, avec des entretiens d'embauche passés dans différentes franchises. Alors, je sais qu'il y a les Panthers qui sont positionnés, je sais plus s'il y en a d'autres ou pas.
Mais idéalement,
Mais
tu gardes Baker Mayfield, c'était ça ma question.
ouais, c'est ça. Mais pour moi, idéalement, vu que tu sais que ce ticket fonctionne bien, si ton coordinateur offensif reste, il n'y a aucune raison de ne pas garder Baker Mayfield.
Très bien. En défense, il y a des bons jeunes joueurs. Ils ont bien drafté en plus au niveau du management. Ils se débrouillent plutôt pas mal. Finalement, mine de rien, même Todd Bowles, etc. Enfin, c'est une saison surprise qui confirme quand même un peu pas mal de monde. Est-ce que ça montre que Tom Brady était surcoté et qu'il pouvait aller en playoff sans lui?
Certains membres de la rédaction le penseront, mais non, non, oui, il y a peut-être quelques ajustements à faire. Au début de saison, je t'aurais dit qu'il faut absolument changer le running back, donc je pense qu'il faut quand même un autre coureur
Ouais.
pour apporter un peu d'alternance à Rachaad White. coureur un peu plus puissant, notamment pour gérer par exemple justement les phases de blitz sur lesquelles Tampa a eu pas mal de difficultés.
Mais il allait mieux.
Un peu d'aide sur la O-line, ce serait pas mal, ne serait-ce que pour avoir un petit peu de profondeur. Après, globalement, en défense, c'est peut-être juste pour préparer l'avenir, hein, des Shaq Barrett, des Lavonte David, mais ça, c'est vraiment juste pour la profondeur et pour le moyen terme, on dira. Après, pour le reste, oui, c'est plus sur ces positions-là, en attaque notamment, où j'essaierai de renforcer les squads autour de Mayfield et d'Evans, si Evans reste, bien entendu, puisque ça va être l'autre question du côté de Tampa Bay.
C'est une belle saison, en tout cas, finalement, pour Tampa, une des belles surprises de la saison. Pour les Lions, on en reparlera dans la preview. Sachez en tout cas que les Lions ont gagné plus de matchs en playoff cette année qu'entre 1957 et 2022.
C'est ça.
Ils avaient gagné qu'un seul match de
Mais ça, mine de
playoff.
rien, ça met une petite pression, parce que c'est sûr que on n'est pas les seuls à se l'être dit, mais c'est vrai qu'on s'est dit, oh, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Voilà, on attendait de savoir éventuellement s'il y a une des deux équipes qui pouvait poser des difficultés à San Francisco en finale de conférence nationale. Bon, on était là, on s'est dit, bon, ça met un petit peu de mal à partir, ça met un petit peu de temps à
Ça
partir.
avait
Alors,
du temps, ouais, ça a mis du temps à
voilà,
partir.
alors je sais que le syndrome était encore plus significatif la semaine dernière contre les Rams, mais j'ai pas de mal à me dire que voilà, maintenant à chaque match de playoff, encore plus à Détroit, où je pense qu'il va y avoir vraiment une pression populaire, paradoxalement, je me dis que la finale de conférence, Détroit sera peut-être un peu moins. Voilà, en étant dans la peau de l'outsider, je pense qu'ils joueront peut-être un peu plus libérés. Ça va être assez intriguant à voir.
Ce sera à San Francisco et c'est comme ça qu'on termine l'épisode 720 du podcast J'en Actu. On parle des matchs, des finales de conférence dans la preview dès demain. On avance d'une journée puisqu'il y a moins de débrief, hein, donc on se permet d'enregistrer, pardon. Plus tôt, ce sera avec Victor Roulier. On vous remercie de nous écouter. N'hésitez pas à nous laisser des notes, des évaluations et tout ça sur les applis de podcast. On remercie Maël et Guillaume Priol qui sont les derniers tipeurs de cette semaine. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Vous retrouvez tous les liens, réseaux sociaux, etc., etc. là-dessus. Merci beaucoup, Grégory.
Toujours un plaisir.
Et on se retrouve donc très bientôt sur les ondes de TD Actu. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TD Actu. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TD Actu. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.